Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Pruvot.
Dans sa rubrique Mots pour mots, Jean Pruvot traite l'étymologie et l'histoire de deux expressions, à la maison la chacunière et à moi tous les mois.
La maison la chacunière, vite à la maison. C'est bien là le réflexe qu'on retrouve souvent lorsque tout semble aller mal. Et c'est bien la réaction dont témoigne Eugène Delacroix lorsqu'il confie à son journal intime, en 1853, combien confronté à une angoisse, il lui fallut vite retrouver ses pénates. « J'ai éprouvé, écrit-il, un sentiment de malaise qui ne s'est calmé que quand je suis rentré à la maison, où je me suis promené en tous sens pendant près d'une heure. On ne saurait mieux témoigner du bien-être ressenti à se retrouver dans ces murs, en principe protecteur et rassurant, en tout cas apaisant pour le grand peintre romantique. » La formule banale « rester à la maison » peut certes être synonyme d'ennui, mais elle est aussi très souvent associée, notamment dans notre monde moderne très remuant, à l'idée de tranquillité, et donc à l'absence d'ennui, au-delà de la boutade d'un dramaturge français du XIXe siècle, Henri Beck, qui déclarait qu'il n'y avait que deux plaisirs dans notre intérieur, celui d'en sortir et celui d'y rentrer. En réalité, rester à la maison relève du pléonasme, dans la mesure où c'est justement à partir du verbe latin « manere », rester, qu'a été construit le nom latin « mansio », aboutissant au mot français « maison » à la fin du Xe siècle. Le manoir porte ainsi encore très directement la trace du verbe « manere ». Nous avons tous une idée assez précise de la maison, la nôtre, mais il y a bien une définition générale, et en 1690, dans son dictionnaire universel, Furtière en donne une image correspondant bien à sa fonction prioritaire, logis, lieu où on peut se retirer et remettre à couvert son bien et sa personne des injures du temps. De fait, un peu à la manière de la tortue qui entre dans sa carapace, dès qu'un danger la menace, on aime à se replier chez soi quand on ne se sent pas bien, et alors, selon les formules consacrées, on se fait un devoir de rester à la maison pour garder le lit. En 1571, parmi les types de maisons évoquées, Maurice de la Porte signale la maison hôpital, hospital, qu'il associe à la maison ami royal, rappelant ainsi qu'étymologiquement, l'hôpital, lieu qui rassemble ceux qui sont en difficulté, et pas nécessairement malade, et par nature hospitalier, même si personne ne confondra en effet cet établissement de soins avec sa maison. En réalité, l'expression d'un sentiment rassurant dès qu'il s'agit de la maison remonte à l'Antiquité. En 1685, César de Rochefort n'hésite pas à citer l'empereur romain Justinien, déclarant en son temps qu'on n'est jamais si bien à son aise que lorsqu'on est logé chez soi, et d'ajouter réalistement « il y a toujours quelque chose à redire dans les maisons étrangères ». Votre maison est l'endroit où vous pouvez vous gratter, quel que soit l'endroit qui vous démange, fait dire Claude Gagnaire, un peu crûment, à un anonyme, dans son bouquin de citation, en 1997. On peut effectivement parfaitement comprendre que, confronté au monde, avec ses obligations, ses protocoles divers, dès que cela est possible, chacun souhaite en général rejoindre sa tanière pour retrouver son intimité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les vers célèbres de Joachim du Bellay, issus des regrets, publiés en 1558, sont toujours au goût du jour, en bénéficiant au début du XXIe siècle d'une reprise par un chanteur du moment sensible à l'interrogation du poète humaniste. « Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? En quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup davantage ?» Parce que notre maison, notre logement, résulte le plus souvent des efforts esthétiques et pratiques d'une vie. Parce que les objets qui y sont accumulés et agencés à notre manière, la peuple, en témoignant de notre identité. Nous sommes en principe profondément attachés à notre maison, qui constitue ainsi un puissant soutien affectif. On le ressent d'autant plus lorsque notre santé nous contraint à un séjour à l'hôpital, hérissé d'objets thérapeutiques, bien éloignés de nos objets domestiques, des souvenirs qui émaillent les murs de la maison. Il fut un temps où la pauvreté et l'injustice sociale régnant, la maison n'était pas toujours un lieu propre et rassurant. Ainsi, en 1922, dans la nouvelle encyclopédie pratique de médecine et d'hygiène, Pierre-Louis Rem consacre-t-il à la seule maison une dizaine de pages dont la teneur témoigne d'une époque qui n'est plus. On y rappelle, par exemple, qu'il est interdit de loger un domestique dans une étable ou une écurie et que les fumiers seront déposés dans des fosses bien étanches éloignées des murs. Par ailleurs, y souligne-t-on, malgré les réclamations des hygiénistes, le papier peint triomphe encore dans les maisons. On ne peut pas le laver, la colle dont il est fixé offre aux microbes un excellent terrain, dit-il. Quant au linge sale, la meilleure solution reste le blanchissage à domicile, par un de ces appareils en tôle comportant un cylindre perforé dans lequel on lessive sans fatigue, sans brossage, sans battoir. Autrement dit, le lave-linge. On le constate aisément, quelques progrès ont été faits. De Jean-Jacques Rousseau, qui rêve d'une petite maison rustique blanche avec des contrevents verts, à Claude Nougaro, promettant à son ami de cœur une maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, de palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora, ou encore à Apollinaire, souhaitant dans sa maison un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison, sans lesquels, dit-il, je ne peux pas vivre. On ne cesse en réalité de rêver à sa chacunière, comme on qualifiait parfois sa maison, assimilant à un moment heureux le fait de regagner ses pénates, c'est-à-dire chez les Romains, les dieux domestiques du foyer. Chacun est roi en sa maison, dit le proverbe, et si on en est éloigné par un séjour hospitalier, avec le désir naturel de retrouver le plus vite possible ses habitudes et son lit, il faut vite retrouver une maison de bouteille, selon la formule du XVIIe siècle, c'est-à-dire une maison où l'on pourra de nouveau recevoir ses amis, faire bonne chère et boire avec modération mais joyeusement à la santé de chacun. Moi, rarement perdu de vue. « Secourez-moi !» s'exclame Furtière pour illustrer l'article qu'il consacre au mot « moi », M-O-Y, dans le premier dictionnaire encyclopédique français, le dictionnaire universel de 1690. Il était alors de bon ton, pour valoriser un mot se terminant par « i », de lui donner un caractère grec avec donc un « y », ce qui offrait le double avantage de le doter d'une part d'une graphie noble et de pouvoir d'autre part calligraphier la dite lettre avec un jambage esthétique, souligné par un imposant trait de plume. C'est à Pascal au grand siècle que l'on doit le concept du « moi haïssable », dans le cadre d'une élégance de conduite qui doit protocolairement nous faire passer en second. Encore, faut-il savoir, qui est ce « moi détestable » « Connais-toi toi-même », déclarait Socrate, qui avait choisi pour lui cette devise gravée sur le fronton du temple de Delphes. Bien vital de chacun, il nous fait, sans hésiter, forcément crier ce « moi » à moi quand notre personne est menacée. De fait, quand la menace est extérieure, visible, pas d'état d'âme. Le « moi » se défend et demande de l'aide, en n'ayant pas de problème particulier d'identité. C'est en revanche lorsque la menace est en nous-mêmes, qu'on en ignore en grande partie la cause et le cheminement, que surgit un doute sur ce « moi » inconnu, ce « moi » malade. Est-ce bien moi ? J'avais un « moi », mais je me le suis fait enlever par un chirurgien, déclare ainsi dans cet état d'esprit précis Peter Sellers au Times en 1980. Jean-Jacques Rousseau, avec sa sensibilité aiguë, signalait déjà avec pertinence cet obstacle à la perception du moi que représente une maladie lorsqu'il écrit à Monsieur de Malesherbes « Un corps qui souffre ôte à l'esprit sa liberté. Désormais, je ne suis plus seul, j'ai un hôte qui m'importune, il faut m'en délivrer pour être à moi. » Être soi complètement, c'est effectivement se retrouver sans la souffrance. Et le même Jean-Jacques Rousseau, dans les rêveries du promeneur solitaire, évoque d'ailleurs ces heures où, se promenant sans souci de santé dans les bois, je suis, dit-il, pleinement moi. C'est sans doute dans la difficulté que le questionnement sur ce moi insaisissable devient plus intense. Ainsi, toujours au XVIIIe, Condillac distinguait deux moi dans l'homme, le moi d'habitude et le moi de réflexion. En tenant compte de la réflexion acide de Wolinski sur laquelle, entre un autre et moi, je n'ai pas le choix. Dès lors qu'une difficulté survient, on n'échappe pas non plus au questionnement de la multiplicité des moi. Questionnement qui n'est pas nouveau, mais qui prend une nouvelle intensité quand on se sent menacé. Cette pluralité des moi se retrouve tout d'abord à travers les personnes que nous aimons et qui indirectement interagissent sur notre moi. Moi, de quel moi parlez-vous ? Je sens bien des moi en moi. S'exclame par exemple Madeleine dans le Lys dans la vallée, tout en montrant ses deux enfants, Balzac sachant mettre à merveille, d'ailleurs, la complexité de chacun d'entre nous. La marquise de Sévigné ne réagit d'ailleurs pas autrement lorsqu'écrivant à sa fille en juillet 1869, elle lui demande de lui parler d'abord d'elle et de ses pensées, toutes ces choses composant mon vrai moi, lui confie-t-elle. La multiplicité est aussi affaire de superposition. La conscience de son existence, affirmait le naturaliste Buffon, est composée de la sensation de notre existence actuelle et du souvenir de notre existence passée. Les moi se superposent en effet dans le temps, le moi enfant, le moi adulte, le moi en pleine santé, le moi pas très en forme, le moi guéri, et tous laissent des traces dans le moi du présent. Notre moi est fait de la superposition de nos états successifs, insiste dans La Fugitive, l'auteur de « À la recherche du temps perdu », et donc du temps retrouvé, Marcel Proust. De la même manière, au cœur du livre de mon ami, Anatole France rappelle ce principe cumulatif et ce d'une manière très émouvante. Ce petit bonhomme est une ombre, c'est l'ombre du moi que j'étais il y a 25 ans. Il valait mieux, en somme, que les autres moi que j'ai eus après avoir perdu celui-là, confie-t-il avec la plus grande sensibilité. En ancien français, moi n'était jamais employé comme sujet et l'on disait par exemple « je qui vous parle ». Voilà qui donne le vertige. Si l'on reprend depuis le départ en se posant la question, mais qui est ce jeu des grammairiens célèbres d'Amourette et Pichon, aimé par exemple à rappeler les difficiles interrogations sur le mode indicatif présent « veux-je ou ne veux-je pas ?» ou pire encore « ose-je ?» Le « nous » de pudeur ou de modestie, comme l'on dit, l'emporte alors aisément « oserons-nous ?» De toute façon, tranche Guénaud, nous restons au bord de nous-mêmes. En fait, s'interroger sur la multiplicité des « moi », c'est aussi être amené à des analyses et des hiérarchies affectives, à la manière de Valéry qui déclarait qu'il y avait des moi plus moi que d'autres, et dans cette même veine philosophique, l'auteur de M. Test ajoutait « Je me suis rarement perdu de vue, je me suis beaucoup aimé, je me suis beaucoup détesté, enfin, nous avons vieilli ensemble ».